recontrôlez le contrôle de votre radio.
Le contrôle de votre radio. Il semblerait que ce soit un putsch radiophonique.
Un putsch à la radio.
Ensemble.
Ensemble.
Nous avons pris le contrôle.
Nous avons pris le contrôle de l'antenne d'RMC.
Radio Brunet.
C'est Radio Brunet.
Nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Radio Brunet, c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC.
C'est vrai, mesdames, messieurs, l'affaire du cumul des retraites de Laurent Wauquiez m'a inspiré ce matin ce Brunet-Métrie. Il faut que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique avant de se présenter à une élection nationale. Voilà, d'accord, pas d'accord, on en parle dans quelques instants. Ensuite, Macaro, ce sera les 3 minutes de gloire.
Et oui, aujourd'hui, les 3 minutes de gloire, elles sont pour Geoffrey, c'est le cofondateur de Dimouz, un site internet qui vous permet de tester le produit de votre choix avec un particulier qu'il possède déjà à proximité de chez vous, comme ça vous le testez avant de l'acheter.
Attends, non, je comprends pas, le mec a déjà, je sais pas, un robot mixeur que tu rêves d'avoir.
Ton voisin a un robot mixeur que tu rêves d'avoir.
Mais t'es pas sûr que c'est le bon.
Donc tu vas le tester chez lui.
Ouais.
Et après tu vois si t'es satisfait. Si t'es satisfait, tu vas l'acheter.
Ouais, ouais, d'accord, ok, compris.
Alors là, bah, il sera en studio avec nous pour tout nous expliquer.
Il y a des mecs qui inventent des applications. Ça, c'est comment il a eu l'idée de ce truc-là. Bon, on en parlera dans quelques instants avec lui. En tout cas, aujourd'hui, comme tous les jours, vers 14h06, hein, sur Radio Brunet, sur RMC, vous prenez le contrôle de l'antenne. Cette fois-ci, c'est Benoît.
RMC.
Pouvez-vous
prendre
mon micro? J'ai des annonces à faire.
Écoutez-moi, je veux me faire entendre.
Je prends le contrôle de Radio Brunet.
Mon cher Benoît, bonjour.
Bonjour Eric.
Je sais pas si tu le sais, mais tu viens de prendre le contrôle de Radio Brunet.
Oui, oui, je suis au courant.
Et alors pourquoi?
Alors parce que Carrefour, ça fait l'objet d'articles de presse ce matin, Carrefour propose dans ses étals la vente de légumes sur variété ancienne.
Attends, il y a quelqu'un qui téléphone là, qui fait des...
Ou avec votre joue, Benoît, peut-être que vous appuyez sur les touches.
Avec ta joue, tu appuies sur ton téléphone, Benoît.
Ah, d'accord, bon, tu vois, c'est bon, ça marche là.
Ouais, là, c'est bon. T'as une joue proéminente, peut-être.
Une chic, je sais pas.
Bon, je t'écoute. Non. Donc, Carrefour, tu disais.
Carrefour, donc, a mis sur ses étals des légumes issus de variétés locales et anciennes.
Ouais.
Alors, jusque-là, on pourrait trouver ça plutôt sympa, mais ça va au-delà d'être sympa, puisque les agriculteurs qui produisent avec ces légumes-là produisent avec des semences qui sont non inscrites au catalogue et pour lesquelles il est interdit de commercialiser et d'échanger ces semences entre producteurs. Et donc, l'action de Carrefour qui met en vente ces légumes prend une dimension un peu politique et dénonce la mainmise des firmes semencières, des grandes firmes semencières, qui imposent aux producteurs de tous les ans passer par la case semences pour produire des céréales, des légumes, ouais. et qui imposent aux agriculteurs, aux producteurs, de systématiquement utiliser des semences certifiées.
Attends, Benoît, je récapitule. Ça veut dire que Carrefour, qui vend des légumes, on va dire, rares, enfin des légumes qui ne sont pas standards, utilise des semences qui ne sont pas les semences de la grande...
De
la grande industrie semencière, on connaît les marques qui sont en général américaines ou allemandes. Bon, mais alors ça veut dire que c'est plutôt bien.
Mais c'est très bien, et c'est pour ça que je voulais, témoigner, parce que quelque part, c'est une forme de coup de gueule de la part de Carrefour que de dire, voyez, on a un patrimoine, parce que là, il s'agit de patrimoine, un patrimoine vivant remarquable, avec une grande diversité de production de légumes. Chaque région, chaque petite région même, a sa particularité de légumes, sa particularité de fruits. Tout ça est en train de disparaître sous le joug de l'homogénéisation, de la standardisation que nous imposent les firmes semencières, avec l'aide des législateurs qui, par le catalogue officiel, ont imposé aux producteurs de ne pouvoir semer que des semences certifiées. Et donc là, quelque part, le paysan reprend son autonomie semencière, reprend son autonomie génétique, et peut à nouveau, grâce à Carrefour qui crée un débouché, proposer des produits locaux, identitaires, authentiques, qui sortent de ces logiques de standardisation, et quelque part dénoncent la logique du catalogue officiel.
T'as très bien résumé les choses, parce que souvent on dit oui, alors il faut aller chez des petits producteurs. Mais justement, ce qui est très fort dans ce que tu décris, c'est que on a une chaîne qui va jusqu'à la grande distrib. C'est que quand t'as une vitrine dans la grande distrib, t'as un débouché majeur, parce que Carrefour c'est énorme, c'est pas un petit producteur au fin fond de l'Isère, tu vois. Ça c'est génial ce que tu décris, c'est formidable.
Et c'est c'est pas la première fois que Carrefour monte au créneau sur ces sujets-là, puisque je rappelle que Carrefour avait soutenu la recherche indépendante de Gilles-Éric Séralini, qui faisait la démonstration que les OGM n'étaient pas complètement anodins pour la santé. Ouais. Et c'était un des financeurs de l'étude du
Benoît, à l'époque. Tu m'assures que t'es pas au conseil d'administration de Carrefour?
Non, je suis... Alors, pour faire la transition avec le débat d'après, je suis élu, je suis conseiller régional, j'ai été vice-président d'une région pendant 6 ans, et au moment où j'ai été élu, j'étais fonctionnaire, je suis aujourd'hui agriculteur, mais j'ai démissionné avant d'être élu de mon poste de fonctionnaire.
Mon Benoît, c'est mon idole. T'as démissionné de ton plein gré de la fonction publique.
Oui, monsieur.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Je suis conservateur du patrimoine. J'étais conservateur du patrimoine dans la fonction publique et je m'occupais justement de ces races et de ces variétés anciennes locales. Et j'étais en charge d'animer les démarches et les programmes de conservation de ces races et variétés locales. Et je suis devenu paysan dans une forme de passage à l'acte. C'est-à-dire que moi, sur ma ferme, je n'utilise pas de semences variétés inscrites au catalogue. Je n'utilise que des variétés locales et anciennes. Et je n'élève que des races locales et anciennes pour sortir des logiques de la standardisation et de l'homogénéisation que j'ai expliqué tout à l'heure.
Merci Benoît, c'était excellent, très bon, jubilatoire de t'entendre. Belle journée à toi camarade.
Merci Eric, bon courage.
Salut, au revoir mon Rémi.
Et demain, je vous le rappelle, comme tous les jeudis, vous prenez le contrôle de Radio Brunet chaque jeudi. Eric, tu paies le transport à l'un de nos auditeurs qui a choisi son sujet, qui discute avec nous des invités et qui fera donc cette émission avec nous demain.
Ouais. Et demain, c'est Christelle qui est agent immobilier.
Elle va nous parler. On va parler logement avec elle, notamment.
Elle est de Pornic en Loire-Atlantique. Elle va venir à Paris. Et c'est moi qui paye, mesdames, messieurs.
S'il te plaît. Et puis, si vous voulez, vous, prendre le contrôle de Radio Brunet, vous nous envoyez un message à l'adresse radiobrunet@rmc.fr.
Laurent Wauquiez, mesdames, messieurs, vous le savez, on en a parlé, est au cœur d'une polémique. Allez, j'ai envie de dire d'une polémiquette, une mini-polémique sur le cumul des points de retraite. Alors, Wauquiez, il a travaillé comme fonctionnaire au Conseil d'État. Mais ça a duré 2 mois. Ça a été court. Ça a duré 2 mois parce qu'en 2004, Wauquiez est devenu député de la Haute-Loire. Ben voilà. Et c'est formidable parce que c'est une situation qui est permise par le statut des fonctionnaires détachés parce que il a pu bénéficier depuis 2004 finalement d'une cotisation pour la caisse des retraites de la fonction publique. Voilà, il est donc pour avoir travaillé 2 mois au Conseil d'État, il va avoir une retraite, voilà, de la fonction publique et en même temps, bien évidemment, sa belle retraite d'élu. Voilà, et ça, pardon, mais ça rouscagne un peu dans les terroirs de France. Ça regimbe, ça renacle. Il y en a qui disent qu'est-ce que c'est que ce privilège inouï de bénéficier de deux retraites, surtout quand on a travaillé que 2 mois au Conseil d'État. Eh bien, ce matin, l'ami Wauquiez était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC à 8h35. Ben, il a dit qu'il allait mettre un terme à la situation.
Aujourd'hui, j'ai donc décidé de mettre fin à tout avantage dont je pourrais bénéficier dans mes cotisations de retraite.
Ça veut dire que vous démissionnez de la haute fonction publique.
Ce qui signifie que je mets fin à mon détachement et que je me mets en disponibilité de la fonction publique. Pourquoi ? Parce que j'ai 42 ans et que j'ai pas l'intention de faire de la politique toute ma vie. Et j'aurai un métier après.
Voilà, bon, mon Rémi Wauquiez qui va donc renoncer à toucher sa retraite au Conseil d'État.
Exactement, c'est l'épilogue d'une semaine de polémique.
Du Conseil d'État.
Oui, c'est ça. Épilogue donc d'une semaine, tu l'as dit, de polémiquette selon toi, Eric, autour du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains. Concrètement, obligé d'assurer ses mandats d'élu, Laurent Wauquiez ne travaille plus à son poste de fonctionnaire du Conseil d'État depuis 13 ans maintenant. Et il n'y a vraiment été à temps plein que 2 mois. Et c'est légal, il continuait à bénéficier de certains avantages, à commencer par son cumul de points de retraite. Une situation permise par le statut des fonctionnaires, lorsqu'ils sont élus pour un mandat local ou national, ils ne sont pas contraints à la démission, ils sont mis en disponibilité. Une fois leur mandat achevé, ils retrouvent leur poste, leur grade et le salaire de départ. Si vous venez du privé, et que vous voulez donc vous présenter un mandat électif et que vous êtes élu, bon, évidemment, Eric, c'est très différent. Il n'y a aucune garantie professionnelle, hormis celle de toucher l'allocation d'assurance mutuelle à la fin de votre mandat.
Oui, alors attends, elle s'appelle assurance mutuelle, oui, différentielle et dégressive. Exactement. De retour à l'emploi des députés.
Exactement, c'est une allocation limitée à 6 semestres, 3 ans, et elle est, tu l'as dit, dégressive. L'une des conséquences des avantages accordés aux fonctionnaires, c'est leur surreprésentation dans le nombre d'élus en France, à commencer par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat confondus.
Non mais attends.
On dénombre aujourd'hui.
Tu m'étonnes. C'est-à-dire, avec ce que tu viens de décrire, c'est tellement facile d'être fonctionnaire, puis élu, puis de redevenir fonctionnaire, tout en gardant, d'ailleurs, on vient de le voir, tes retraites, qu'ils auraient tort de se priver.
Exactement.
Mais bien sûr, ils auraient tort de se priver. C'est pour ça que tu vas me dire, j'en suis sûr, qu'il y a une surreprésentation des fonctionnaires au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Exactement, on dénombre 305 parlementaires, fonctionnaires, en France. C'est 32% des élus, Sénat et Assemblée, alors que la fonction publique ne représente que 20% de la population active. Et dans les pays anglo-saxons, l'approche est radicalement différente.
Ah bah oui.
Irlande, Royaume-Uni, Canada, un fonctionnaire qui souhaite se présenter à une élection doit d'abord démissionner de son poste.
Et même aux US.
Et aux États-Unis, c'est les hauts fonctionnaires.
Et les hauts fonctionnaires, voilà. D'accord. Ben écoutez, voilà, moi je voudrais qu'on s'inspire de ce qui marche au Canada, en Angleterre, en Irlande et aux États-Unis pour les hauts fonctionnaires, et que ceux qui ont envie, hein, nos fonctionnaires, d'être élus, ben ma foi, qu'ils commencent par démissionner, hein, mesdames, messieurs. Caro.
La deuxième brunimétrie d'aujourd'hui, pour toi, il faut que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique avant de se présenter à une élection nationale. Et pour l'instant, la majorité est d'accord avec toi, Eric, puisque 81% de nos auditeurs partagent ton avis.
Alors j'accueille dans le studio Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Eric.
Vous êtes rédacteur en chef à la revue Tous Contribuables, hein, qui est très proche de Contribuables Associés.
Qui est la revue de Contribuables
Associés. Vous savez que vous êtes l'association qui a tapis rouge en permanence ici. Vous faites pas un claquement de doigts, vous venez. J'adore Contribuables Associés. C'est une association qui défend les contribuables de France et qui n'a pas assez voix au chapitre dans ce pays. Je le dis à chaque fois, combien y a-t-il d'adhérents chez vous ?
350 000, dont un bon nombre, je pense, écoute en ce moment même Éric Brunet et RMC.
Non mais
je les salue d'ailleurs.
C'est quand même extraordinaire. Mon Rémi, tu as 350 000 adhérents à Contribuables Associés. Tu les vois une fois tous les 6 mois au journal de 20 heures, alors que tu prends des petites associations de rien du tout que nous recevons de temps en temps et qui font la une des journaux tous les 3 jours. Non, c'est vrai.
Il faut faire du lobbying.
Fait du lobbying. Après, on est sans doute un aiguillon, un poil à gratter. Et donc, c'est effectivement, on a tendance à ruer dans les brancards, dénoncer des choses que d'autres ne dénoncent pas et on gêne. Donc, effectivement,
vous en prenez à la haute fonction publique, vous en prenez aux finances publiques, vous dénoncez parfois les dépenses absurdes des collectivités locales, le nombre exagéré de fonctionnaires en France. Enfin, on connaît. Donc, ou alors, on aime bien vous ridiculiser, dire bien évidemment, les gens de Contribuables Associés vont trouver que le rond-point est trop cher. Tu sais, dans la folie dépensière de nos élus locaux qui font parfois des ronds-points débilissimes. Bon, on n'est pas là pour parler des ronds-points, mais plutôt de cette enquête que vous avez diligentée sur la haute fonction publique et de votre regard sur l'affaire de Laurent Wauquiez. D'abord, cette histoire de cumul des retraites pour Wauquiez, elle est légale.
C'est légal, oui, tout à fait. Ça existe depuis longtemps. Comme vous le disiez tout à l'heure, la loi a changé. Depuis 2017, les députés ne sont plus... et les sénateurs, donc les parlementaires, en règle générale, ne sont plus concernés par ces questions de détachement, mais sont mis en disponibilité. Donc il y a un petit mieux. Mais dans l'affaire Wauquiez, nous, ce qu'on a toujours dit à Contribuables Associés, comme ça se fait, comme vous le disiez très très bien tout à l'heure, il est hors de question qu'un fonctionnaire soit parlementaire.
Oui.
On ne peut pas être, pour un fonctionnaire d'État, par exemple, être issu de l'exécutif et... être à la rédaction de loi. C'est contraire à la séparation des pouvoirs, du législatif et de l'exécutif notamment.
Oui.
Un fonctionnaire qui est élu député ou sénateur est à la fois jugé parti.
Oui.
Issu d'une administration, on peut penser que cette administration, s'il est appelé d'autant plus à la retrouver par la suite dans sa carrière, on peut penser qu'en tant que député, il va défendre son administration, il va défendre la fonction publique et il ne sera pas au service des Français comme on pourrait l'entendre. on vit en France dans une dans un climat suradministré. Vous le disiez très, vous l'avez dit très bien, les parlementaires, la fonction publique est surreprésentée au Parlement. Il y a deux fois plus de fonctionnaires à l'Assemblée qu'il n'y a
en France
ouais. Parmi la population active. Et ça, c'est on pointe là un grand problème français.
Mais, alors, ces anglo-saxons sont extraordinaires parce que ils n'ont aucun tabou. Hein. Je regardais en Irlande. Alors là, ça rigole. C'est-à-dire que pour un Irlandais, être fonctionnaire et en même temps élu, c'est totalement... Enfin, il y a conflit d'intérêts. Un Irlandais, il trouve ça choquant. Un Irlandais qui vient en France, vous lui dites bah, « Attendez, j'ai été fonctionnaire pendant 15 ans et puis maintenant je suis député », mec, il tombe de son siège parce que pour lui, c'est antagonique. Ce sont deux missions totalement antagoniques. Il y a conflit d'intérêts. Et dans le monde anglo-saxon, c'est comme ça. Tu veux être élu, Coco, tu démissionnes tout de suite de la fonction publique parce que tu ne peux pas être à la fois un serviteur de l'État côté fonction publique et puis un élu qui fait la loi de l'autre côté.
C'est exactement ça. Après l'affaire Cahuzac, on a pointé les conflits d'intérêts de parlementaires issus du privé, avocats ou je ne sais quoi. Mais on n'a pas mis en avant, du moins il n'a pas été voulu par beaucoup de mettre en avant cet aspect que nous on a dénoncé à Contribuables Associés à l'époque et qu'on continue de dénoncer, qui est ce conflit d'intérêts où, je suis désolé, un fonctionnaire, il est issu d'une administration et donc il va se battre pour son administration, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on voit que notre pays est surreprésenté à l'Assemblée et au Sénat par des fonctionnaires. Notre pays est suradministré. Ouais. On ne peut pas réformer ce pays tant que la fonction publique aura la main mise, que ce soit au Parlement ou ailleurs en France.
Gilles m'appelle au 3216. Il est policier municipal dans le département du Var. Mon cher Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment est-ce que vous votez, vous, sur le Brunet-Métrie du jour?
Absolument, mais alors absolument pas d'accord.
Vous estimez qu'un fonctionnaire doit pouvoir être sans problème ministre ou député et vous exprimez qui peut cumuler ses retraites, c'est ça?
Alors, j'ai pas dit qu'il pouvait cumuler ses retraites. Moi, je suis absolument pas d'accord sur le fait qu'ils doivent démissionner. Moi, je pense que à partir du moment où il est élu du peuple, le peuple, il élit qui il veut. Tout le monde a le droit de se présenter, c'est pas une condition d'inéligibilité que d'être fonctionnaire ou quelque autre profession. Je pense que effectivement, il y a là où se trouve le problème, c'est pas par rapport au fonctionnariat, c'est par rapport à la retraite de l'élu. Un élu, quand il est élu, il est dédommagé pour son mandat. Mais il ne devrait pas pouvoir avoir une retraite ensuite comme l'ont certains députés au bout de plusieurs mandats. Ça, par contre, je suis absolument contre.
Et oui, mais attendez. Gilles, le fonctionnaire, vous dites, il peut être élu député s'il a envie. Bon, donc il est élu député pour un mandat, et puis au bout de 6 ans, il retrouve son bureau, quoi. Il retrouve son bureau, etc. Mais enfin, c'est quand même d'abord un privilège scandaleux. Ensuite, on peut imaginer qu'il va servir sa boutique, parce que c'est une sorte, c'est comme un syndicaliste qui est détaché dans son entreprise, quoi. Il reste dans l'entreprise. Vous êtes en train de me dire que pendant 6 ans, il met sa vie entre parenthèses, il passe des coups de fil aux collègues, et puis au bout de 6 ans, s'il est battu, il retrouve les collègues. C'est quand même curieux.
Moi, je vois plutôt qu'il va servir son pays pendant 6 ans. Et comme ça pouvait l'être en Grèce avant où ils étaient tirés au sort finalement, là c'est pareil, il est élu, bon le peuple, les électeurs le choisissent, bon, ils savent, en connaissance de cause, ils élisent ce qu'ils ont envie, ils ont envie d'élire un fonctionnaire, grand bien leur fasse. Maintenant, effectivement...
Oui, mais est-ce que vous avez conscience que compte tenu de la protection de l'emploi, le statut à vie dont bénéficient la plupart des fonctionnaires, vous avez compris que finalement les seuls qui vont se risquer à mettre leur vie entre parenthèses pour mener une campagne électorale locale, ceux qui savent que finalement c'est pas trop grave s'ils vont pas au bureau l'après-midi, etc., parce que de toute façon on va pas les virer, c'est pas trop grave s'ils n'ont pas de résultats commerciaux à la fin du mois, parce que de toute façon on les virera pas, ce sera les fonctionnaires. Donc il va y avoir une surreprésentation de la fonction publique dans un pays où il y en a déjà beaucoup. Et puis voilà, aujourd'hui là, sur les 577 députés, il y a une étude étudiante, il y a un ouvrier. Voilà. Et il y a le nombre de fonctionnaires, c'est un nombre à trois chiffres. Bon, voilà, il est là le problème. C'est qu'effectivement, n'importe quel fonctionnaire peut se présenter aux élections. Il sait très bien qu'il pourra prendre tout le temps dont il a besoin pour mener campagne. Voilà, il sera jamais sanctionné. Si il est un mauvais député, s'il est viré, c'est pas grave, il a retrouvé son job. Enfin, vous voyez, c'est quand même... Moi, je trouve ça anachronique.
Après, encore faut-il pouvoir dire qu'un fonctionnaire sera un mauvais élu ou un élu partiel. Et ça, j'en ai pas encore la démonstration.
Non, mais s'il n'est pas un bon élu, il est viré au bout de 6 ans. Ce que je veux dire, il est viré au bout de 6 ans, il retrouve son job. Voilà. Je vous assure que l'allocation d'assurance mutuelle différentielle et dégressive de retour à l'emploi des députés, cette allocation pour ceux qui viennent du privé, qui sont battus au bout de 6 ans. Ben, je peux vous dire qu'elle est petite, hein. C'est pas grand luxe. Quand vous êtes un député battu, non fonctionnaire, faut retrouver du boulot, faut galérer. En général, on vous attend pas. C'est moins chic, hein. Allez-y.
Moi, j'ai plus à l'esprit la notion de servir son pays que la notion partisane qui est intéressée de la fonction qui pourrait lui conférer certains avantages au niveau de sa profession.
Attends, vous êtes bien gentil avec les députés quand vous dites voilà, ils vont servir le pays. On a l'impression qu'ils vont se battre à Verdun. Bon, je vous assure que bon, ils sont utiles, hein, nos députés votent la loi, certes, mais enfin le côté ils servent. Vous aussi, vous servez votre pays. Hein. On sert tous notre pays, hein, Gilles. Ouais. Et peut-être même que vous, policier municipal, vous servez mieux les administrés du Var que les députés de votre département.
Bon. Je m'y efforce.
Salut Gilles.
Merci, au revoir.
Au revoir, 14h26. Mesdames, messieurs, faites le 32-16. Si vous avez des arguments, hein, venez pas pour me parler de la couleur du ciel. Mais si vous avez des arguments, faites le 32-16. Pour moi, il faut que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique avant de se présenter à une élection nationale, d'accord ou pas. On le sait, c'est le cas en Irlande, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas au Canada, et c'est le cas pour les hauts fonctionnaires aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? J'attends vos arguments. À tout de suite. Un petit point sur le brunimétrie, Caroline.
Bah oui, parce que...
Tu étais toute triste.
Bah oui, j'attendais que tu me donnes la parole tranquillement. Mais en tout cas, les auditeurs sont très nombreux à réagir pour ce second brunimétrie. Et pour le moment, bien 81% d'entre eux partagent ton avis, Eric.
À tout de suite.
RMC, Radio Brunet, Eric Brunet.
14h30, mesdames, messieurs, vous écoutez Radio Brunet sur RMC. C'est tous les jours de 13h à 15h. C'est la radio mutine, c'est la radio rebelle. C'est le putsch radiophonique, mesdames, messieurs. Un coup d'état pacifique à la radio. C'est ça, tous les jours. Un coup d'état pacifique à la radio. Il faut que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique avant de se présenter à une élection nationale. Enfin, ça vous paraît... Je demande pas un truc fou. Ça se fait dans de nombreux pays anglo-saxons. Pourquoi pas en France? Ça vote comment? Redis-le-moi, s'il te plaît, Caroline.
Bah, les auditeurs sont très nombreux à réagir. Et pour le moment, 81% d'entre eux partagent ton avis, Eric.
Tiens, Jean-Baptiste Léon, qui est mon invité, rédacteur en chef de la revue Tous Contribuables, de Contribuables Associés. Jean-Baptiste Léon, est-ce que notre ami Laurent Wauquiez aurait dû démissionner au lieu de cumuler sa retraite de fonctionnaire plus sa retraite d'élu?
Complètement, et il y a un exemple historique qui est parlant en la matière, c'est quelqu'un, un très grand homme politique qu'on connaît tous, qui est Léon Blum, qui à l'époque où il est rentré au gouvernement, sous la Troisième République, a quitté son poste de conseiller d'État.
Ah oui, il était donc au conseil d'État à Blum, comme d'ailleurs Laurent Wauquiez.
Exactement.
Et lui, il avait démissionné.
Il avait démissionné, comme d'autres collègues aujourd'hui de Wauquiez, on connaît, hein, Bruno Le Maire et autres, Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse, Emmanuel Le Maire, Macron. Emmanuel Macron.
On démissionnait de la fonction publique.
Ouais, c'est pas rien, c'est-à-dire parce que démissionner, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais la démission, voilà, pour un fonctionnaire, la démission, ça veut dire que, voilà, il met un terme à ses droits et en particulier, il ne cotise plus à sa retraite et il ne bénéficiera plus de la retraite.
Exactement. Bruno Le Maire mettait en avant une question d'équité en la matière. Il estimait que c'était vraiment un comportement éthique et nécessaire pour tout élu, pour tout parlementaire.
Ah, c'est d'autant plus marrant que ce même Laurent Wauquiez, il y a quelques années, il était ministre des Affaires européennes en 2011, et vous vous souvenez, il avait un peu fustigé l'assistanat en France.
Cette question de la différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. Parce que ça n'encourage pas les gens à reprendre un travail, parce que ça décourage ceux qui travaillent et parce qu'au total, ça fait perdre tout simplement de l'activité et donc de l'emploi à la société française.
Le vrai cancer de la société française, il y en a un qui s'en souvient, c'est un autre parlementaire de droite. Il n'est pas dans le groupe à l'Assemblée des Républicains, il est chez les scissionnaires, là vous savez, les Républicains, les constructifs. C'est Thierry Solaire, le député Les Républicaines, Républicains pardon, des Hauts-de-Seine. Ça c'était dimanche dernier, hein, il y a quelques jours, il se moquait un peu de Wauquiez et de son assistanat cancer de la société française.
Là, dans le genre de assistanat cancer de la société, dans ce fonctionnement-là, et ça c'est tout à fait caractérisé.
C'est ça, ça correspond à ça.
Ah bah pour moi c'est terrible. Je comprends que les gens soient en colère en apprenant ça. Hein. Ouais. Quand on est en train de vraiment de faire des efforts collectivement pour essayer de rationaliser nos régimes de retraite et quand on voit comment ça marche pour certains, c'est assez triste.
Mon Rémi. Ouais, je voulais juste préciser que ce matin, Laurent Wauquiez sur RMC a annoncé non pas sa démission, hein, en plus de la fonction publique du Conseil d'État, il renonce à ses droits à la retraite.
Oui, parce que.
Mais il est toujours en disponibilité.
Attends. Tu dois comprendre un truc, mon Rémi. Parce que ça, tu l'as pas compris, je vais te l'expliquer. Bon. T'es élu. T'es fonctionnaire. Bon, t'es fonctionnaire. Ok. Tu deviens député, par exemple. Tu deviens député. T'as le choix entre deux possibilités. Soit tu te mets en disponibilité. Tu perds tes droits à la retraite, soit tu te mets en détachement, tu gardes tes droits à la retraite.
Ça c'était
jusqu'en 2017.
Jusqu'en 2017.
Oui. Et tu gardes tes droits à la retraite. Et là donc c'est le cas de Wauquiez, il continuait à garder ses droits à la retraite alors qu'il n'avait été membre du Conseil d'État, donc fonctionnaire que pendant 2 mois. Ça c'était effectivement Jean-Baptiste Léon a raison de le dire. Ça c'était jusqu'en 2017 parce que la nouvelle loi, elle dit quoi la nouvelle loi?
Ben elle dit que tout député, tout sénateur ne peut plus être mettre en disponibilité, en détachement, mais en disponibilité. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il se met en congé sabbatique. Voilà. Il peut plus toucher son, il a plus droit à l'avancement, il n'a plus droit à sa retraite.
Sauf que comme ça a été voté.
Mais il peut réintégrer son,
le corps administratif de régime. Sauf que ça a été voté par les nouveaux députés, là, Macron. Donc, du coup, ça sera valable pour les prochains députés dans 6 ans. Si, ça, c'est sûr.
À ma connaissance, ça a été voté dès 2013 rentré du temps de la loi sur la transparence de la vie publique. Et donc c'est pris en considération depuis la nouvelle mandature, donc depuis les législatives dernier.
J'aurais dit une énorme bêtise. Donc en fait, c'est déjà en vigueur.
C'est en vigueur.
C'est en vigueur maintenant. Ok, merci beaucoup, Jean-Baptiste Léon. C'est pour ça qu'il est là. On a besoin d'experts. Lui qui est donc rédacteur en chef à la revue Tous Contribuables, de Contribuables et Associés. Philippe Teurl est au téléphone avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Eric.
Journaliste à Radio France Internationale, britannique, spécialiste de la politique outre-Manche. Merci Philippe d'être avec nous.
Bon, rien.
Alors, bon, nos amis britanniques n'ont pas ce genre de problème parce que j'ai l'impression que quand on est agent public, fonctionnaire de la couronne, enfin de l'État, quand outre-Manche, ben on peut pas faire de politique, enfin on peut pas être élu. Vrai ou faux?
Alors, je veux pas vous décevoir, mais en fait, c'est faux. Il y a beaucoup de hommes politiques et femmes politiques en Grande-Bretagne qui ont un deuxième boulot, qui maintient pendant qu'ils sont élus. Et il y a toujours l'éternelle discussion, est-ce qu'on a le temps de travailler ailleurs quand on est élu député? Et on a quand même un énorme travail au Parlement britannique. Il y a eu quelques tentatives en 2014-2015 de changer la législation, et évidemment... C'est toujours la même chose, c'est que c'est les députés qui doivent voter, c'est les députés qui veulent protéger leurs droits. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que est-ce qu'on est capable d'avoir un boulot à plein temps comme médecin, comme avocat, comme agriculteur et d'être élu député en même temps. Pour beaucoup de personnes, on n'a pas le temps, mais on garde notre travail parce qu'évidemment, on cotise et on a droit à toucher à la retraite.
Oui, enfin, Philippe Teurl, on est d'accord. Je suis député en Angleterre et je suis en même temps, je sais pas, consultant, avocat ou député et fonctionnaire, c'est pas possible.
Député et fonctionnaire, c'est pas possible. Et député et consultant pour les grandes entreprises ou membre du bureau de direction d'une grande entreprise, c'est extrêmement mal vu par le public. Alors ce qui est drôle, c'est que j'entends votre sondage qui dit que 80% des Français sont contre cette idée. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, il y a eu un sondage qui était fait et 74% des Britanniques sont contre l'idée qu'un député doit ou peut travailler ailleurs que d'être député à plein temps. Donc alors, on est un peu sur le même longueur d'onde la population britannique et la population française.
Oui, sauf que vous n'avez pas le droit d'avoir des députés fonctionnaires, première chose, alors que nous, on a une surreprésentation des députés fonctionnaires. Nous, on a 30% de nos parlementaires qui sont des agents publics, qui sont des fonctionnaires, alors que vous avez une majorité de vos parlementaires qui sont chefs d'entreprise, avocats, etc., mais qui sont pas dans la fonction publique, justement. C'est le sujet.
Parce que c'est un peu considéré comme la même chose quand on est politique, quand on est élu à la Chambre des communes en Grande-Bretagne. On est un peu assimilé aussi comme une fonctionnaire d'État. Donc c'est quand même difficile de tenir un rôle de fonctionnaire ailleurs et de faire le même travail. Le problème, c'est que beaucoup de députés pensent qu'avec le salaire qu'ils touchent tous les ans, qui est à peu près équivaut à 80 000 euros, ils sont moins bien payés que certains grands fonctionnaires qui ne sont pas élus. Et donc, évidemment, ils essaient de garder leur travail, qui n'est pas un travail de fonctionnaire, évidemment, à l'extérieur de leur travail de d'hommes et femmes politiques, ce qui nécessite... une acrobatie de pouvoir être disponible, par exemple, quand on est médecin généraliste, pour voir ses patients, et en même temps, de travailler et d'être présent à la Chambre des communes.
Étrange, étonnant. Merci Philippe Turl, merci beaucoup. Belle journée à vous, hein, Philippe Turl, journaliste britannique à RFI, bien sûr. 14h39, mesdames, messieurs, vous pouvez m'appeler au 32-16. Est-ce que la configuration actuelle du Parlement a changé, justement, le nombre d'agents publics
Paradoxalement, non. On s'attendait avec ce qui nous a été vendu, avec les marchistes, ce qui est un renouveau, l'arrivée de la société civile au Parlement. Quand vous regardez très près, en tout cas pour l'Assemblée nationale, parce que les élections sénatoriales vont avoir lieu dimanche, donc il n'y a pas encore eu de renouvellement. Mais à l'Assemblée, non, il n'y a pas eu de changement. On reste à peu près, si on prend uniquement les députés, depuis plusieurs législatures, on reste à peu près entre 40 et 45% de députés qui sont issus de la fonction publique.
40 à 45% de députés
qui sont issus. Donc encore une fois, c'est le double du nombre de fonctionnaires en proportion dans la population active française, quoi.
C'est considérable, absolument considérable.
Donc on voit bien qu'il y a quand même une...
Mais alors là, moi, les bras m'en tombent parce que j'étais convaincu qu'avec les marcheurs, avec Macron, avec le nombre considérable de nouveaux députés qui viennent de chez Macron, je me disais, il va y avoir des start-upers, il va y avoir toute une nouvelle sociologie. Bon, effectivement, il y a une étudiante, mais...
Zéro ouvrier,
oui. Ouais.
Et on voit aussi une profession qui monte et qui a le vent en poupe, notamment chez les marchistes, les marcheurs, les députés d'En Marche, et la profession de collaborateur d'élus. Et ça se retrouve d'ailleurs dans toute la France.
Il y a plein de députés qui sont des collaborateurs d'élus, d'anciens collaborateurs d'élus.
On l'a vu à des précédentes municipales aussi. On voit la sociologie des maires qui change. Donc de plus en plus de maires qui sont issus de la fonction publique et de plus en plus de maires qui ont toujours fait carrière uniquement dans des partis politiques, qui sont des anciens collaborateurs d'élus, que ce soit au Parlement ou ailleurs. Et donc ces gens-là ne sont pas, dans l'absolu, n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais ont toujours vécu de l'argent public, ont toujours été des gens qui ont baigner dans la sphère politique. Et donc présenter ces personnes-là comme étant issues de la société civile, c'est quelque part se foutre de la gueule des Français et des contribuables.
On va écouter la présidente de la région Île-de-France. Elle était dimanche sur RTL, une radio concurrente. Elle s'appelle Valérie Pécresse. Mesdames, messieurs, elle ne manque pas l'occasion de tancer, de moquer un peu Laurent Wauquiez, son adversaire politique, issu du même parti, bien évidemment. Mais oui, elle dit les gens qui cumulent une retraite de la fonction publique et une retraite des élus de la République sont des gens qui sont quelque peu privilégiés et il faudrait que ça change. Valérie Pécresse.
Je crois qu'il va falloir que la loi tranche ce sujet. On l'a déjà fait pour les députés, pour mettre les fonctionnaires élus ou les élus fonctionnaires à égalité avec les élus qui ne sont pas de la fonction publique, c'est-à-dire qu'en plus on ne puisse pas avoir double cotisation de retraite quand on est élu local. Mais ça suppose quoi? Ça suppose qu'on travaille aussi peut-être sur les conditions de la retraite des élus locaux.
Ouais, commentaire sur ce que dit Valérie Pécresse.
On revient. Le cas est intéressant. Là, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est le cas des élus locaux. On entend beaucoup parler de la réduction des dépenses publiques, ce qui est souhaitable et une bonne chose au niveau de l'État. Mais tout en bas, dans les collectivités locales, et c'est valable pour le statut des élus également, il se passe des choses assez noires, assez sombres. Donc les élus locaux continuent de bénéficier de privilèges auxquels ne bénéficient plus les parlementaires, mais aussi au niveau local, on a de véritables baronnies locales où l'argent public est gaspillé à flot. Gaspillé à flot, et on a tendance à moins s'intéresser à ce qui se passe dans nos régions, dans nos belles provinces. Mais là, vraiment, faudrait mettre le curseur là-dessus et voir ce qui se passe, parce que c'est vraiment hallucinant, notamment en termes aussi de, pour reparler du fonctionnariat, les effectifs ont explosé dans la fonction publique en 15 ans, notamment depuis la création des communautés de communes. C'est plus 300 000 entre 2004 et 2016. C'est exponentiel et ça coûte de plus en plus cher aux Français.
Stéphane est dans le Haut-Rhin. Merci. Mon cher Stéphane, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Super émission.
Alors dis-moi, je vais te demander de voter au téléphone. Il faut que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique avant de se présenter à une élection nationale. Es-tu d'accord avec ça, Stéphane, ou pas d'accord ?
Tout à fait, Eric. Il faut absolument démissionner. Il y a beaucoup de gens qui l'ont exprimé. Beaucoup d'élus l'ont fait. Et par contre, une fois qu'on a terminé son mandat électif, je ne vois aucun inconvénient à ce que chacun réintègre son administration et que la retraite soit calculée en fonction du prorata des jours travaillés, enfin des mois travaillés, et ainsi de suite. Je veux dire, à partir du moment où on est pour la République, on cesse toute fonction administrative. On a un mandat électif. Une fois le mandat électif terminé, on peut retourner à ton administration.
Attention Stéphane, tu dis, il faut démissionner. Non, c'est pas une démission. Alors, c'est ce qu'on appelle
la mise en disponibilité.
Oui.
Ben non, mais non, donc à ce moment-là, il faut changer la loi. On a le droit de démissionner, mais je veux dire, à partir du moment où on a fait son cursus universitaire, où on a choisi son truc. Je veux dire, c'est comme une boîte privée. Je peux ouvrir une boîte privée, je la plante, j'en ouvre une autre, j'engage mon argent. Mais je veux dire, à partir du moment où on a fait son mandat électif, pourquoi il n'y aurait pas une rétroactivité ?
Bah oui, parce que oui, mais ça ferait une espèce de sécurité de l'emploi permanente pour le fonctionnaire qui...
Ben, on n'est pas payé.
Oui. Oui, mais là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Merci Stéphane. Sébastien est à Rampillon, en Seine-et-Marne. Il a 38 ans. Bonjour Sébastien, il a fait le 32-16. Bonjour.
Bonjour Eric, ravi de vous passer en ligne, c'est chouette, c'est une belle émission.
Merci.
Moi je voulais appeler pour expliquer ce qui se passe dans les petites communes, et comme d'habitude dans les communes on leur demande des choses qu'on ne fait pas au sommet de l'État. C'est-à-dire que dans une commune, si on veut être employé de la commune, on n'a pas le droit d'être élu. Donc si on veut être élu, bah, il faut démissionner du poste que l'on occupe, et si on veut être employé par la commune, il faut démissionner de son poste d'élu. Alors pourquoi on ne ferait pas ça à l'échelle nationale? Je ne comprends pas. Pourquoi les communes doivent respecter, avoir des budgets équilibrés et que l'État peut faire ce qu'il veut? Je ne sais pas, je ne comprends pas.
Donc tu me dis, dans ta petite commune par exemple, si je veux être élu, je dois démissionner de mon job d'employé de la mairie en charge des parcs et jardins, par exemple.
Voilà.
Je dois démissionner. Oui, d'accord.
C'est incompatible. On ne peut pas être élu de la commune et être employé de la commune. Donc pourquoi pas, au niveau de l'État, faire la même chose en disant on ne peut pas être représentatif de l'État, donc député, sénateur, etc., et fonctionnaire. C'est incompatible aussi. C'est la logique des choses.
Bah oui. Et tu sais quoi, mon Rémi, Sébastien, 38 ans, de Seine-et-Marne, je lui envoie tout de suite un t-shirt.
Il le mérite.
Un t-shirt, les nouveaux t-shirts de l'émission qui sont une pure tuerie, Sébastien. Tu vas enfin avoir du succès avec les filles, parce que je t'en envoie un. Parce que maintenant, sérieusement, ce que tu viens de dire est plein de bon sens. Ce qui est fait quotidiennement dans les petites communes devrait être déployé sur le plan national. C'est plein de bon sens, voilà.
Je t'invite, Eric, à venir me l'apporter en main propre le samedi 7 octobre, puisqu'on organise une très grande fête à Rampillon, à l'église de Rampillon, et donc je t'invite à me l'apporter en main propre.
Qu'est-ce qui va se passer le 7 octobre à l'église de Rampillon, Seine-et-Marne ?
Alors, c'est les 50 ans de l'association des amis de l'église, et
mais bien évidemment, alors moi, les 50 ans de l'association des amis de l'église, j'arrive tout de suite. Il y aura Beyoncé, Francis Cabrel, McCartney.
Il y aura un groupe de gospel international à 20h à l'église, et vu l'église de Rampillon qui est classée depuis 1840.
Ah, bah alors là, non, mais attends, j'arrive, je viens. Ma mère qui est à Perpignan, mon père qui est à La Baule, on arrive tous, parce que ce que tu présentes là, c'est tellement exaltant.
Il y a une résonance sonore dans l'église qui est extraordinaire.
Il paraît que Barack Obama fera un sketch assez déconnant. Enfin, il paraît que Annie Cordy, un petit sketch de jonglerie aussi, Annie Cordy.
Ouais. Ça sera la bonne du curé.
La bonne du curé. Neil Young, Patti Smith, ils seront tous là.
On rigole, mais je suis sûr que ça sera très bien.
Maître Gims sera là également le 7 octobre à l'église de Rampillon, Seine-et-Marne. Ils vont avoir 503 000 personnes.
C'est très gentil, Eric, merci.
Salut, Sébastien. En tout cas, tu sais quoi, si jamais je viens pas, t'auras ton t-shirt, camarade.
C'est gentil.
Salut, Sébastien. 14h47, Caroline, le résultat de ce brunémétrie, il faut que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique avant de se présenter à une élection nationale. Ne me dis pas qu'ils ont voté contre moi.
Eh ben non.
Bah oui.
Mais non, 83% de nos auditeurs pensent comme toi, Eric, et ils ont été très très nombreux à voter pour ce deuxième Brunet-Métrie.
Alors toi, obscur conseiller d'Emmanuel Macron, qui ne travaille pas aujourd'hui à l'Élysée, qui est planqué derrière ton ordinateur et qui écoute Radio Brunet sur RMC à 14h47. Oui, toi, obscur conseiller d'Emmanuel Macron, suggère au président, eh bien, de faire ce qui se fait dans les petites villes, c'est-à-dire que quand t'es fonctionnaire, tu peux pas être élu. Quand t'es élu, tu peux pas être fonctionnaire de la même administration. Voilà. C'est bien, c'est sympa, ça marche partout dans le monde. Vois pas pourquoi ça marcherait pas en France. 14h48, mon Rémi.
Les 3 minutes de gloire à Geoffrey, cofondateur de Demos. C'est pour tester le produit de son choix. Tu vois, j'ai envie d'un vélo électrique, mais je me demande si c'est vraiment bien. Ah bah, tu sais, il y a quelqu'un pas loin de chez moi qui en a un.
C'est vrai?
Ouais. Ouais, je vais le tester avec lui.
Tu vas le tester avec lui. Merci à Jean-Baptiste Léon, qui était mon invité aujourd'hui de la revue Contribuables et Associés.
Merci bien.
Merci.
RMC, hashtag Radio Brunet, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux.
Un certain nombre de personnes m'ont dit que sur Radio Brunet, on recevait des messages. Est-ce que c'est vrai?
On en reçoit énormément des messages. Je peux te lire le message de Jack qui nous dit c'est le système qui permet ça, il n'y a rien de choquant. Sauf que pour changer le système, il faut que les élus votent pour changer un système qui les avantage. Donc, bon courage.
Ce message également de Christian sur l'application RMC dans Direct Studio. Il faut au contraire renforcer la loi pour retrouver son emploi dans le privé. Pour les personnes qui se présentent aux élections. En fait, il voudrait, lui, un rééquilibre. C'est-à-dire que les fonctionnaires continueraient à pouvoir retrouver leur poste, leur grade, leur salaire lorsqu'ils quittent un mandat électif.
Ouais.
Et ça devrait être pareil pour le privé. Bon, ça c'est l'avis. C'est l'avis de Christian.
Tu quittes une entreprise
et c'est l'avis de Vincent
ans.
Aussi.
Tu quittes une entreprise pendant 6 ans, mais l'entreprise elle a peut-être fermé. Enfin, il connaît l'entreprise privée, lui, Vincent. Non mais oh.
Et Christian, Vincent et Christian, ils
non,
connaissent pas.
Vous ne connaissez pas l'entreprise privée. Quelqu'un qui s'en va pendant 6 ans, il est plus au courant des pratiques commerciales, des nouveaux produits qui sont sortis. Il y a dans la fonction publique. On peut reprendre le mec 6 ans après. Vous imaginez, les bordereaux n'ont pas changé, mais dans une entreprise 6 ans plus tard, t'es plus au courant, t'es dépassé.
T'as gardé tes stylos, ton bureau, tout a rien à bouger.
Ouais, voilà.
Un message de Adèle, on en a marre de tous ces passe-droits qu'on octroie aux fonctionnaires, cette garantie de l'emploi que nous n'avons pas, nous autres employés du privé.
Message de Adèle, la chanteuse, tu crois?
Ah non, je ne crois pas. Adèle non. Baba.
Adèle Baba.
Ah ben, donc je ne pense pas que ce soit la chanteuse.
C'est sa
sœur,
mais Adèle Baba, elle a dit un truc très juste, très très juste.
Et puis ce message de Jean-Louis, qui n'y croit pas, hein. Il ne croit pas que ça va changer, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied.
Tu penses que c'est Jean-Louis Aubert?
Oui, c'est ouais, Jean-Louis Aubert. Jean-Louis A, insu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied, nos élus. Ils sont juges et partis, peu d'espoir que ça change.
Ouais.
Un message de Jean en gendarmerie, si tu es candidat, tu dois.
Jean, c'est Jean du Jardin, tu crois?
Non. Jean Aguera, sur Facebook, qui nous dit en gendarmerie, si tu es candidat, tu dois te mettre en congé sans solde le temps de l'élection et du mandat.
Ben voilà, bravo Jean.
RMC, Radio Brunet, 3 minutes de gloire.
Mesdames, Messieurs, Geoffrey Vidal, 32 ans, est venu de Toulouse ce matin. Il est fondateur de Demos. D-2-E-M-2-O-Z. Demos. Qu'est-ce que Demos, Geoffrey?
C'est D-E-M-O-Z.
Il n'y a qu'un seul E. Ben voilà, tu sais, il y a des gens qui me font des fiches qui vont être virés sans préavis dans la seconde. Bon, D-E-M-O-O-Z. Qu'est-ce que c'est?
Alors, Demos, c'est essayer avant d'acheter. En fait, on a une plateforme web qui vous permet de tester un produit avant de l'acheter en magasin ou en ligne.
Explique-moi. Donc, j'ai envie d'acheter un produit, je sais pas, un robot mixeur, on disait tout à l'heure, par exemple. Alors, je fais comment?
Alors, vous allez sur demos.com et vous allez sur la fiche du produit. Je vais pas citer de marque aujourd'hui, mais vous allez...
Ah, on cite tout ce qu'on veut.
Un Magimix, par exemple.
Un Magimix.
Cook Expert de Magimix. Vous allez sur la fiche produit et vous pouvez faire une demande de test. Et là, vous allez voir toutes les personnes autour de chez vous qui ont ce produit et qui acceptent de vous recevoir pour cuisiner et pour vous faire découvrir le robot. Et donc, c'est un moment convivial parce que vous avez le produit en main, vous pouvez vous faire votre propre avis, vous cuisinez, après vous mangez ce que vous avez cuisiné.
C'est un plan de drague, là. C'est un plan de drague. Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai 53 ans, assez beau gosse, et je voudrais tester le dernier Magimix.
Ouais, ça peut.
Ouais. J'aimerais tester un maillot de bain 2 pièces. Est-ce que quelqu'un...
On fait pas les habits encore.
Bon, d'accord. Non, mais alors, quel type de produit, donc, sérieusement, quel type de produit sont testés?
principalement les produits high-tech, donc les objets connectés, les objets innovants, ça va effectivement du robot de cuisine. C'est tous les objets qui ont besoin d'être essayés,
ouais,
ou qui sont un peu chers et qui, ou avec lesquels on vit une expérience pendant, ouais, pendant qu'on utilise le produit.
Moi, par exemple, je suis intéressé par le tout nouveau téléphone smartphone BlackBerry. Mais personne n'en a autour de moi. J'ai envie de voir comment il marche, est-ce qu'il est rapide, etc.
Effectivement, ben, vous pouvez aller sur notre site et regarder, ouais, s'il y a des démoseurs à côté de chez vous qui proposent un essai de ce téléphone.
Ouais. Alors, c'est tout simple. C'est pas une application, c'est un site internet. Je vais sur mon ordinateur, sur Demoz, hein, D-E-M-2-O-Z, Demoz, et je regarde, je mets la fiche technique du produit qui m'intéresse, et paf, paf, on voit sur une carte autour de moi.
Exactement, vous avez une carte, hein, où il y a tous les démoseurs autour de vous,
ouais,
qui ont le produit, et vous pouvez les contacter, alors soit un, soit plusieurs, et vous pouvez fixer dans rendez-vous avec l'un d'entre eux.
C'est-à-dire, quand t'es à Toulouse, à Marseille ou à Paris, ça marche, mais quand t'es dans la Creuse, le démoseur, il risque d'être à 120 km.
Détrompez-vous, on a des démoseurs aussi dans les petites villes comme Rodez. Moi, je suis ruténois à la base, et il, ouais, y a des démoseurs là-bas. Ouais.
Bon, formidable. Merci beaucoup, Geoffrey Vidal. Avec rien plaisir à dire. Donc ça, c'est opérationnel, ça existe. Hein, ça,
oui,
ça,
oui, bien fonctionne. Sûr. Ouais. Aujourd'hui, on a une communauté de 90 000 membres.
90 000 membres.
Ouais, ouais. En France, en Belgique et en Suisse essentiellement. Mmh. Et il y a un tiers de ces personnes qui proposent au moins un produit à essayer. Donc.
Et une petite voiture électrique, par exemple. Tiens, ouais, j'ai une voiture électrique bien qui sûr m'intéresse en ce moment. Il y aura un démoseur qui en, oui, aura une à moins de 100 mètres de
si
chez moi.
Si vous voulez tester, par exemple, une C0 de Citroën, ouais, vous, ouais, pouvez, ouais, bien sûr.
Pow, pas mal du tout, pas mal du tout, Demoz. Merci beaucoup, Geoffrey.
Avec plaisir.
À bientôt. Mon Rémi, tout va bien?
Tout va bien, tout, voilà, va très bien.
Eh bien, je vais me tourner, tu sais vers qui?
Oui, je sais.
Vers Maïtena, car elle vient d'entrer dans le studio, Maïtena.
Salut toujours à tous, comment ça va?
Très bien, Maïtena, et toi?
Mais très très bien, à midi, vers midi, comme ça j'étais devant ma télévision pour suivre, et ma radio, bien entendu, pour suivre les annonces sur la politique du logement du gouvernement. Elles, ouais, ont été faites là tout à l'heure. Mmh. Il y a un beau petit conflit autour des APL qui s'annonce, à mon avis, mais enfin, ouais, bon. En France, il y a toujours 4 millions de mal logés. Est-ce que nous sommes, Eric, condamnés au mal logement? Ou est-ce que l'architecture de demain peut résoudre le problème du mal logement? Vous avez peut-être, vous, trouvé une solution pour vous loger mieux et pas cher. Vous testez des alternatives, je sais pas, moi, vous vivez dans un conteneur flottant, par exemple, ça existe. Ou vous êtes propriétaire et vous avez décidé de faire un effort citoyen? Appelez-nous au 3216. À 15h45, je recevrai Raïm Korsia, c'est le grand rabbin de France. Il vient à l'occasion du nouvel an juif qui commence ce soir. Sa parole est rare, mais il a l'oreille des puissants. Être juif en France, est-ce que c'est difficile? La France est-elle, oui ou non, antisémite? Je vous attends avec Jérôme au 3216 et sur Twitter, hashtag M quand même.
Et Radio Brunet, demain dès 13h.
Un peu, mon neveu.